Ok, avant de lire le texte du jour, donc c'était les six premiers versets du chapitre 15, je voudrais juste faire une petite introduction. Donc, si vous vous souvenez, même si on n'était pas tous là à ce moment-là, ce qu'on a vu précédemment, c'est qu'après un long voyage, alors sans doute quelques années, après un long voyage dans les terres païennes, eh bien, Paul et Barnabas sont rentrés à Antioche de Syrie, on pourrait dire pour un repos bien mérité, auprès de l'Église qui les avait envoyés. Et ils vont être confrontés là à une nouvelle épreuve, alors moins grave que la lapidation quand même, à une nouvelle épreuve inattendue, initiée par des Juifs de Judée, et qui aboutira à un profond désaccord qui les mènera en définitive à Jérusalem. Donc Paul et Barnabas vont se retrouver loin d'Antioche à Jérusalem pour essayer de gérer le problème qui est né là. Voilà, donc si quelqu'un veut lire les six versets d'un coup, ce serait bien, comme ça la péricope est entièrement couverte.
Brigitte. Ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu.
Oui, ah, voilà, c'est ça. Tu nous as manqué, alors...
Certains gens descendirent alors de Judée qui voulaient endoctriner les frères. Si vous ne vous faites pas circoncire selon la règle de Moïse, disait-il, vous ne pouvez pas être sauvés. Un conflit en résulta et des discussions assez graves opposèrent Paul et Barnabas à ces gens. On décida que Paul, Barnabas et quelques autres monteraient à Jérusalem trouver les apôtres et les anciens à propos de ce différend. L'église d'Antioche pourvue à leur voyage. Passant par la Phénicie et la Samarie, ils y racontaient la conversion des nations païennes et procuraient ainsi une grande joie à tous les frères. À leur arrivée à Jérusalem, ils furent accueillis par l'église, les apôtres et les anciens, et ils les mirent au courant de tout ce que Dieu avait réalisé avec eux. Des fidèles issus du pharisaïsme intervinrent alors pour soutenir qu'il fallait circoncire les païens et leur prescrire d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire.
Voilà. Ok, alors je suppose que vous aurez vu que dans vos Bibles, les découpages ne sont pas toujours les mêmes. Oui. Certains arrêtent la péricope au verset 5, etc. Oui. Enfin, on s'en fiche. Moi, j'ai décidé gentiment d'aller au bout
c'est moi le chef.
De la procédure, et puisque comme après, ça va être la discussion.
Exactement.
Voilà. Ben, oui. Ok, ça me paraissait plus simple comme ça. Tout de go, j'ai presque envie de vous demander ce que vous avez pu... trouver comme réponse la question 1 qui était que peut-on déduire des informations contenues au verset 1a, c'est-à-dire certaines gens descendirent alors de Judée.
Quelques hommes, ouais. Certaines gens.
Qu'est-ce que ça vous dit, ça? Rien.
Pas grand. Pas grand. Je serais d'accord avec Anne-Catherine.
Ah bah oui, en Grèce, c'est quelques hommes.
Oui. Oui, donc, allez, top traduit certaines gens, je ne sais pas ce qu'on vous a mis
quelques
dans vos...
Quelques hommes,
etc. Bon. D'abord, ce qui est intéressant de souligner, c'est quand même l'anonymat. Oui, c'est bizarre qu'on ne nous dise pas qui, pourquoi. Donc voilà, des gens.
Ça a l'air intéressant, qu'est-ce qu'ils enseignent?
Alors, ils descendent de Judée, donc c'est déjà pas neutre.
Oui.
C'est quoi la Judée finalement? C'est essentiellement Jérusalem et alentour.
Oui, l'église mère.
C'est-à-dire, voilà, plutôt le territoire de l'église mère. Voilà, on peut en déduire un tas de choses. Mais je dirais qu'en ces quelques mots, le cadre est quand même posé. Il y a des gens qui arrivent de Judée, ce n'est pas tout à fait neutre. On apprendra, alors un peu plus tard, il faut aller jusqu'au verset 24 pour le découvrir, qu'ils n'ont pas été mandatés. Par quiconque pour venir délivrer cet enseignement. D'accord ?
On peut dire qu'ils n'ont pas de légitimité de les garder anonymes.
La légitimité qu'ils ont, c'est qu'ils sont judéens. Ouais. Et donc, comme ils sont de l'Église mère, on va leur accorder un plus grand crédit quelque part. Et c'est d'ailleurs ce qui transparaît dans la suite de la péricope. Hein. Fort de cette appartenance, ils se permettent un certain nombre de choses qu'on va découvrir. Ceci dit, donc, l'anonymat, c'était justement pour nous montrer qu'ils ne sont rien ni personne, hein, qu'ils n'ont pas plus de droit que ça de faire les choses, mais on sait aussi que dans les coutumes juive, en l'occurrence, celui qui est de passage a le droit d'enseigner. C'est pas un problème en soi. Donc ils sont reçus à bras ouverts par l'église d'Antioche, parce qu'ils viennent de Jérusalem ou des environs, peu importe. Et on apprend aussi que par conséquent, ils seraient plutôt de l'orthodoxie, parce que si c'est des judéens, c'est donc pas des gens qui ont affaire à des églises mi-païennes, mi-juives, qui sont totalement dans l'orthodoxie, et on découvrira un peu plus tard, je crois au verset 5 déjà, qu'en fait ils sont issus du courant le plus dur. Donc ce ne sont pas des hellénistes, mais bien des gens issus du pharisaïsme, dont ils portent évidemment les idées par conséquent. Et on le voit au type d'enseignement qu'ils vont donner.
Ce serait des sadducéens, ce serait encore pire, non ?
Alors, ce serait déjà plus libéral. Là, tu as vraiment affaire au courant le plus strict.
Ah, et les pharisiens, c'est encore plus strict.
Les pharisiens, c'est la loi et rien que la loi. Et d'une manière très stricte et légaliste. Hein. Donc oui, c'est pas tout à fait neutre. Et la précision du verset 5, pour ça, est intéressante, parce qu'elle nous permet de comprendre pourquoi ils viennent enseigner ce type de choses. Alors, certains commentateurs vont jusqu'à dire que les judaïsants de type issus du pharisaïsme, de la secte des pharisiens, commencent à comprendre qu'ils perdent pied. Qu'avec les communautés qui se multiplient, alors, peu importe statistiquement combien de pourcents sont païens, d'origine païenne, et combien juifs. À Antioche, on sait que c'est plus ou moins 80-20, si vous voulez. Ça n'empêche que ça pose un problème aux yeux des pharisiens, de ceux qui... Alors, des pharisiens convertis, attention, c'est des messianiques aussi. Hein. C'est d'ailleurs la première fois que Luc dit qu'il y a des pharisiens, un courant pharisien messianique. D'accord. Mais on avait vu déjà qu'il y avait eu des gens comme Nicodème, etc., Joseph d'Arimathée, bon, peu importe. Hein. On l'a vu au tout début du livre des Actes. Du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire.
Mais voyant avec qu'il y avait de plus en plus...
Oui, donc c'est un peu normal que le courant le plus strict dise « Bon, écoutez, là, il va falloir trancher, ce n'est plus possible. Pour nous, c'est pas normal que des païens puissent fréquenter le judaïsme sans être circoncis et sans observer la loi de Moïse. » Ceci étant, il faut savoir que pour... alors ça, c'est pas dans les Actes, hein, mais au 1er siècle, je dirais que la plupart des Juifs admettent que les païens, s'ils observent la loi de Noé, ça leur suffit.
Donc, Noé
Oui. Donc le type d'alliance avec Noé, c'était... pas de relation immorale au niveau sexuel, pas manger la viande avec le sang. Enfin, il y avait 7 règles comme ça, dont je ne me rappelle pas par cœur toutes. L'homosexualité, enfin, il y avait un certain nombre de trucs de cet acabit. Pas manger de viande sacrifiée aux idoles. Bref, c'était bon. On pouvait tolérer qu'il soit dans la synagogue ou dans le milieu juif. Donc voilà, je pense que les juifs messianiques, maintenant, se trouvent confrontés à ce courant pharisaïque qui dit « Nous, on aimerait bien que ça aille plus loin. C'est pas simplement l'alliance, les 7 règles de Noé. Il faut aussi appliquer la loi, toute la loi, et notamment celle de Moïse. » Donc ça veut dire « a minima circoncision » et « deusio observation des règles de la loi ». Bon. Donc ils le pensent assez haut, assez fort, même à Jérusalem. Mais jusque-là, ça ne devait pas créer de conflit. Et pour cause, puisqu'à Jérusalem, il n'y a quasiment pas de païens. Donc voilà. Ce n'est pas non plus un hasard que nous apprenons par le texte qu'ils descendent de Judée, de leur piédestal, hein, vers Antioche de Samarie, justement pour emmener le débat sur le terrain. Donc ce n'est pas juste un détail, c'est une stratégie. Il est important de s'attaquer à la première église, alors s'attaquer c'est un bien grand mot, hein, d'aller en tout cas porter leur enseignement dans l'église, la première, qui est composée quand même de 20% à peu près de gens d'origine païenne, qui ne sont pas circoncis, et qui ne sont pas tous des prosélytes, etc. Et donc c'est là qu'ils veulent faire naître le débat. Alors, on va continuer un tout petit peu pour bien comprendre, et notamment comprendre les différences qu'il y a dans nos traductions. La Taube pêchant un petit peu d'ailleurs à partir de la phrase suivante, lorsque la Taube dit qui voulait endoctriner les frères, sous-entendu les frères messianiques. Hein. Oui. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout ça en grec, il est question tout simplement d'enseigner. D'enseignement normal. Il n'y a donc pas une volonté spécifique de nuire ou de vouloir manipuler les gens. Non, ils viennent défendre leurs idées.
Oui, c'est ça.
L'idée du courant pharisien qui pense que on devrait demander aux païens d'être circoncis et puis d'observer la loi de Moïse. Voilà. Et donc leur message est assez fort.
Ah oui, c'est le mot endoctriné que tu
m'as dit. Oui, c'est enseigné.
En fait, c'est vraiment enseigné. Le verbe étant à l'imparfait, d'ailleurs, on peut supposer que cet enseignement dure depuis un bon moment. Donc ils ne viennent pas juste d'arriver puis délivrent leur petit message. Le grec laisse sous-entendre que c'est quelque chose qui a duré dans le temps. Et peut-être même que cet enseignement a commencé avant le retour de Paul et Barnabas. Pas mal de commentateurs le pensent. Parce que sinon, on ne comprend pas qu'en si peu de temps, ça ait créé un problème. Oui, il y en a deux. Il n'y a pas deux pots. Alors, pour rappel, parce que c'est important de bien l'ancrer dans sa tête, c'est tout à fait normal que des juifs de passage puissent enseigner. Oui. Voilà, ça, ce n'est rien d'extraordinaire
à
ça.
Ça nous étonne toujours.
De surcroît, ce sont des judéens messianiques. C'est des gens qui ont accordé foi au Messie. Donc, ça ne pose aucun problème à Antioche. Voilà, ils les accueillent à bras ouverts. Et puis, ils apportent un enseignement. Donc, je crois qu'il faut vraiment gommer l'idée qu'ils sont venus pour obtenir quelque chose via la manipulation, l'endoctrinement, etc. Par contre, ils défendent leur point de vue qui est assez strict et ils le défendent jusque-là sans qu'il y ait eu de vague. Alors, qu'est-ce qui pose problème avec les pharisiens globalement? C'est qu'ils défendent quand même un modèle de séparation radicale entre juifs et païens. Donc pour eux, il n'y a pas, même si on a la même foi au Christ Jésus, on n'a pas la même valeur, si vous voulez. Il y a ceux qui sont purs, circoncis, alliés à Dieu, et puis il y a ceux qui sont dans un rapprochement. Mais s'ils veulent être considérés par les pharisiens, il faut qu'ils deviennent quasiment juifs. Hein, parce que leur demander d'être circoncis et d'observer la loi de Moïse, c'est, ça et être juif, c'est la même chose. Hein. Et ça laisse bien apparaître, alors, quelle est la perspective des pharisiens? C'est que la voie messianique, ce qu'on va appeler plus tard le christianisme, la voie messianique demeure à l'intérieur du judaïsme, y compris dans tous ses rites. Donc pas de différence. La voie messianique ne serait pas différente du judaïsme traditionnel. Et donc pour un vrai disciple, celui qui veut suivre Jésus, notamment s'il est d'origine païenne, doit nécessairement devenir juif à part entière, comme on l'a dit tout à l'heure. Et bien sûr, les frères d'Antioche, jusque-là, reçoivent cet enseignement. Alors ça a sans doute créé des débats. Mais ils reçoivent cet enseignement comme si cela venait de Jérusalem. Pour eux, ils n'ont pas spécialement compris que ce n'est pas l'Église qui les avait mandatés pour le faire. Et la thématique de leur enseignement tient en une phrase, en tout cas chez Luc, hein, au la phrase suivante, si vous ne vous faites pas circoncire selon la règle de Moïse, disait-il, vous ne pouvez pas être sauvés. Et ça, c'est quand même un cran plus loin. Parce que oui, s'ils avaient dit, vous ne pouvez pas fréquenter la communauté, fréquenter, manger voilà. avec des juifs, bon, voilà. à la limite, on a déjà trouvé ça dégueulasse, mais là, ça va plus loin. Parce que ça veut dire, si ça, c'est pas fait, votre salut n'est pas un vrai salut. Ce que vous croyez être sauvé n'est pas la vérité. Et là, c'est là que va naître le conflit. Parce que là, les 20% de païens convertis vont pas apprécier spécialement ce type d'enseignement. Et les autorités de l'Église vont commencer à se dire « Oui, là, il y a un problème. Il y a quand même quelque chose qu'on ne peut pas tout à fait accepter. » En tout cas, c'est la phrase que Luc fait, qui résume tout leur enseignement. Et c'est évidemment pas anodin que ça ait lieu dans ce territoire païen, dans la première église mixte. Et ces gens de Judée, alors, je me suis demandé, qu'est-ce qu'ils espèrent ? Est-ce qu'ils espèrent, avec leur enseignement, faire pencher la majorité d'origine juive vers l'imposition de leur demande, circoncision et observation de la loi? C'est peut-être leur stratégie, mais le texte ne nous le dit pas clairement, donc on ne peut faire que des suppositions. Et donc le message est très clair, je vais le résumer en une courte phrase. Hors de la circoncision, il n'y a pas de salut qui tienne. Ça va quand même heurter théologiquement une communauté qui vit depuis déjà des années, de manière autonome, sans qu'il y ait eu l'ombre d'une vague entre païens et personnes d'origine juive de cette communauté. Et on se rend bien compte alors que les Judéens qui sont descendus de Jérusalem, ils sont ancrés dans la théorie. Ils n'ont jamais été confrontés à la communauté messianique, mixte si vous voulez. Donc eux, ils sont enfermés dans leur théorie d'une manière assez étriquée, de manière légaliste au sens de loyaux à la loi, si vous voulez, pas dans le sens de « ah, sale légaliste ». Non, ils sont attachés à la loi et ils veulent la défendre à tout prix. Et bien sûr, Paul et Barnabas, qui sont revenus de leur premier voyage missionnaire avec un nombre incalculable de convertis dans le milieu païen, ben, ils s'inscrivent plutôt, eux, dans la pratique d'une expérience récente, de centaines, voire de milliers de païens sauvés, non pas par leur volonté, mais par l'agir même de Dieu. Et ils ne peuvent donc pas nier, eux, qui ont vu et entendu que beaucoup de peuples différents, n'étant pas de la même ethnie, se tournent vers le Dieu d'Israël et via le Christ. Voilà. Donc c'est vraiment deux mondes qui vont tout d'un coup être confrontés, la théorie, la pratique. Et bien sûr, pour tout juif, la circoncision, c'est le signe par excellence de l'alliance avec Dieu. De l'appartenance au peuple élu, si vous voulez. Donc traiter quelqu'un d'incirconcis, c'est donc la pire des insultes. C'est comme si on leur disait espèce de païen. Donc t'es pas entier, quoi. Il y a quelque chose qui manque. Mais en même temps, dans le rite juif, la circoncision, c'est aussi la frontière entre le pur, c'est-à-dire celui qui est consacré à Dieu, et l'impur, ceux qui ne sont pas circoncis, les non-consacrés par conséquent. Et donc c'est au nom de ce principe de séparation qu'on avait déjà vu avec l'histoire de Corneille, qu'on a reproché à Pierre d'être allé chez les païens. Ah, seul principe là, quoi, hein. C'était dans Acte 11. Mais voilà que pour les judaïsants radicaux, donc les plus stricts...
Mais donc il y a déjà eu
Il y a déjà eu. Non, pas de débat, justement. Pierre a dû défendre.
Mais c'est avec Pierre, mais c'est pas avec Paul. C'est avec Paul.
Oui, Pierre a dû défendre. Mais évidemment, ça se passait plus ou moins... Alors, pas spécialement en Judée, mais quand même dans la contrée où les Juifs habitent de manière majoritaire. Et Corneille, hein, c'est vraiment la côte, là, tout près de Tel Aviv actuelle, si vous voulez.
Puis Corneille et sa famille n'avaient pas intégré une église.
Ils fréquentaient la synagogue. Après, on ne sait pas ce que c'est devenu. Mmh. Est-ce qu'ils ont continué à aller à la synagogue, l'air de rien, ou est-ce qu'ils ont eux-mêmes créé finalement une communauté mixte composée de païens, alors d'origine romaine cette fois-ci, ou pas? Est-ce qu'il a converti toute sa garnison? On ne le sait pas, le texte ne nous le dit pas. Mais donc ces juifs-là, ils vont jusqu'à dire finalement que même les signes, comme la guérison à l'istre par exemple, hein, tous ces signes ne comptent pas s'ils s'opposent à la loi. Donc la loi, c'est plus fort que les signes visibles de quelque chose qui serait même de l'ordre du divin. Ça, ça pose quand même question.
Ben oui,
ça va quand même assez loin, quoi. Hein.
D'où la discussion.
Donc, pour eux, ils ont beaucoup de peine à croire que des païens peuvent s'ajouter au judaïsme via la voie messianique sans passer par la circoncision. Ça, c'est quelque chose... Et on peut le comprendre si on se met de leur point de vue. Hein. C'est impensable, quoi. Ils sont tellement imbus de leurs prérogatives, pensant que le judaïsme, et c'est un peu ce qu'on reproche parfois aux juifs, le judaïsme est supérieur à tout, et que la seule foi en Jésus, bien qu'il soit mort et ressuscité, n'est pas suffisante, par conséquent. Or, rappelez-vous, Jésus lui-même s'est quand même insurgé contre ce principe de séparation. Par exemple, lorsqu'il mange avec des pêcheurs, lorsqu'il parle avec la Samaritaine qu'il côtoie, lorsqu'il honore la foi des non-juifs, comme cette femme qui dit « mais si je pouvais ramasser les miettes sous la table, etc. » Il reconnaît en eux une foi extraordinaire. Alors comment ne pas suivre l'exemple de Jésus ? Et c'est vraiment ce qui d'ailleurs marque la vision de Paul. Lui qui est ressuscité, qui a donc été accrédité par cette résurrection, accrédité dans la mission qu'il a eue, d'ouvrir à toute l'humanité le salut, eh bien, c'est ce que fait Paul, lui qui était pourtant d'origine pharisienne, comme ceux qui sont descendus de Jérusalem, eh bien, lui, il vit complètement l'idée d'une intégration des païens dans la voie messianique. Ça ne lui pose aucun problème. Pourtant, Dieu sait si avant, il avait plutôt démontré le contraire, on va dire, même avec ses copains juifs, quoi. Et donc, c'est là que le verset 2 nous annonce, tout d'un coup, comme ça, poum, un conflit en résultat, et des discussions assez graves opposèrent Paul et Barnabas à ces gens, toujours anonymes, ces gens. Voilà. Alors, on pourrait traduire plus littéralement une contestation et un débat, ou une controverse, si vous voulez. Alors, le texte grec dit une controverse pas petite. De nouveau, on est devant
une vive discussion.
Ouais, une vive discussion. Ouais, alors, ok, on va dire que les versions francophones. Oui, violent. Mais moi, ça m'embête parce que c'est pas la réalité du grec et ça, c'est quand même un petit peu gênant.
Violent.
Donc, en tout cas, disons qu'il y a controverse. On n'est pas d'accord et on va défendre chacun nos points de vue. D'accord ? C'est un peu comme ça qu'il faudrait le comprendre. Alors, on a dans certaines de nos versions le terme conflit, c'est-à-dire une opposition quand même dure et radicale, ou contestation, c'est-à-dire, contestation, c'est quoi ? C'est mettre quelque chose en cause. Je ne suis pas d'accord avec votre modèle messianique, je pense qu'il faudrait que... Et les messianiques répondent, ah ben non, nous on ne veut pas que les païens soient circoncis. Donc c'est un vrai débat. Et ce qui ressort en tout cas, et ce qui devrait plutôt ressortir du texte ici, c'est qu'il y a un caractère inconciliable des deux visions théologiques. Personne ne l'emporte. Chacun campe sur ses positions, chacun a développé tous ses arguments, et manifestement ça ne convainc pas le parti opposé. Et ça crée un problème dans l'Église par conséquent. S'il y a tout d'un coup deux possibilités d'analyse et que ni l'une ni l'autre ne l'emporte, on est à deux doigts d'un vrai conflit cette fois-ci, d'un éclatement de la communauté. Et c'est la raison pour laquelle on verra que finalement Antioche préfère envoyer plutôt que de rester dans le faux débat, l'absence de débat. Alors, qui fait face à ce moment-là, à cette crise ? Ben c'est justement Paul et Barnabas, en nous souvenant qu'ils ont été quand même les acteurs principaux, il y a quelques années, de la croissance numérique de cette communauté. C'est eux qui ont fait un maximum de convertis parmi les gens d'origine païenne, plutôt des Syriens. Et c'est eux deux qui ont participé à l'édification de cette communauté messianique dans le sens de la rendre solide et durable, etc. Et c'est ce qu'on trouve dans le chapitre 11 qu'on a étudié, notamment les versets 22 à 25. Alors, conclusion, on pourrait dire « Ah, match nul !» Et on aurait pu en rester là. On aurait pu dire « Bon, mais tant pis, personne n'a tort, personne n'a raison, on va faire avec. » Ceci dit, on imagine bien que les Judéens qui étaient descendus de Jérusalem, ils vont peut-être pas rester ad vitam aeternam, hein, surtout s'ils n'ont pas l'impression d'avoir gagné spécialement. Et ce qui se passe, au verset 2b, c'est que finalement, on décide autre chose. Et de nouveau, là, le texte en français n'est pas toujours très clair. Mm-hmm. Parce que, par exemple, dans la Tob, on a « on décida ».
Et les frères, ici.
Alors voilà, certains vont dire « les frères mm-hmm. », mais en grec, c'est « ils décidèrent ». Mais qui est ce « ils »
Peut-être pour les Barnabas.
Alors,
ça pourrait être eux deux.
Il y a beaucoup de...
« ils décidèrent ».
Il y a beaucoup de possibilités.
« Ils décidèrent ».
Alors, on peut peut-être commencer par, mais puisqu'il y a match nul, peut-être que c'est les deux parties qui ont voulu arbitrer le conflit. D'ailleurs, certains commentateurs, et voire même certaines versions du texte en grec, pas celles qu'on a sous les yeux nous, mais il y a des variantes qui montrent qu'on pense que c'est plutôt ceux qui n'ont pas gagné, c'est-à-dire ceux qui étaient descendus de Jérusalem, qui ont suggéré qu'on aille rendre ça en arbitrage auprès des apôtres et des anciens de Jérusalem. Mais on peut continuer la réflexion. Soit c'est les deux parties en conflit, soit c'est une suggestion, l'initiative de Paul et Barnabas, on peut aussi le comprendre comme ça dans la traduction, soit c'est l'église d'Antioche qui a participé à ce débat, qui a proposé ce compromis et argumenté en ce sens. Puisque vous ne pouvez pas être d'accord, ben allez à Jérusalem et voyez ce qu'il en ressort. En tout cas, c'est très difficile de faire une traduction authentique dans le sens de qu'est-ce que le texte grec dit vraiment. Peut-être que c'est un panachage de toutes ces hypothèses-là. Et la suite, alors, je relis quand même pour ne pas me tromper.
Parce que c'est pas anodin hein, comme question.
Ah non, c'est même central. On décida que Paul, Barnabas et quelques autres montreraient à Jérusalem, trouver les apôtres et les anciens. Alors, là de nouveau, on peut se poser la question, c'est qui ces quelques autres?
Moi j'ai quelques autres personnes d'Antioche.
Voilà.
Ça ne veut pas dire que les autres...
Alors ça dépend de nouveau des variantes du texte grec.
Oui.
Certaines variantes disent clairement que c'est des gens de l'Église. Alors, maintenant, le « d'entre eux » est assez intéressant. Parce qu'on n'aurait pas dit ça, on n'aurait pas dit ça si c'était les judaïsants descendus de Jérusalem. Donc c'est des gens d'Antioche, manifestement, déjà.
Ici, ils disent, donc dans ce groupe, les frères décidèrent, donc Paul et Barnabas et quelques-uns, dès l'heure, montrèrent.
Ouais, voilà. Ok, donc jusque-là, c'est bon. En tout cas, ça laisse supposer, globalement, que c'est une délégation de la communauté elle-même, accompagnée de Paul et Barnabas. Et d'ailleurs, le suite du texte va nous le confirmer par quelques éléments supplémentaires, au verset, par exemple, 3a. Comment se fait-il que l'église d'Antioche pourvoie aux besoins du voyage, si ce n'était pas des gens d'Antioche. Donc manifestement, l'Église se mouille, et elle a raison de le faire d'ailleurs. On va voir ça dans une minute. Donc, la démarche particulière, c'est ceci. Il ne faut surtout pas laisser pourrir la situation. Donc, il faut trancher dans le vif. Et finalement, c'est principalement à l'avantage de la communauté. On voit bien que la communauté a un intérêt à ce que cette question soit définitivement tranchée, sous peine d'éclatement de la communauté, de dissensions incroyables, etc. Donc elle se protège d'un conflit majeur qui pourrait perdurer puis déstabiliser toute l'Église, ou la détruire tout simplement, et détruire la communion, la paix qui y régnait, etc. Indirectement, cet arbitrage, ça va être aussi une bonne chose pour Paul et Barnabas, pour leur ministère auprès des païens. Parce que si, maintenant Jérusalem dit « Ah non, tout le monde doit être circoncis », c'est la galère, parce qu'il y a déjà des milliers de convertis. Ah oui, comment maintenant aller annoncer à des gens qui croient au Messie, dur comme fer, qu'en plus de ça, les mâles, en tout cas, doivent être circoncis. Et ils doivent observer la loi mosaïque. D'accord ? Donc ça serait quand même une bonne chose aussi pour eux. Et si Jérusalem arrive à trancher une fois pour toutes, ben les choses seront enfin, j'ai envie de dire, claires pour tout le monde, ceux du courant messianique du judaïsme et aussi pour les païens qui vont adjoindre par une conversion sincère les communautés mixtes. Donc voilà, tout le monde est gagnant. Encore faut-il que Jérusalem tranche de manière équitable pour tous, quoi. Voilà, et donc je reviens à mon verset 3a avec l'église d'Antioche qui pourvoit aux besoins. Le texte grec dit littéralement « ayant été envoyé par l'église ».
Accompagné.
Nous, on a accompagné.
Financièrement, c'est ça.
Oui, c'est plutôt dans le soutien. Pourquoi pas, on peut aussi imaginer.
Toute l'église ne les a pas accompagnés. Toute l'église n'a pas été avec eux.
Non. En général, dans ces situations-là, l'église accompagne jusqu'aux portes de la ville.
Oui, c'est ça.
En marque d'envoi et d'honneur, si tu veux. Mais ici, c'est bel et bien l'idée d'avoir été envoyé. Si on traduit littéralement, c'est « ayant été envoyé » par l'Église. Ah, et ça, c'est de nouveau très intéressant parce que ça corrobore notre idée d'une délégation composée uniquement de gens de la communauté et non pas des judaïsants qui étaient descendus de Jérusalem. Et ça va encore se confirmer par la suite. Donc, c'est bien l'Église locale qui a mandaté Paul, Barnabas et sa petite délégation vers Jérusalem pour une mission d'arbitrage. Envoyée. C'est plus qu'envoyer, c'est plus qu'un ordre, c'est soutenir, financer, pourvoir aux besoins de toute la délégation qui sera à Jérusalem. Et pour rappel, le voyage aller est quand même de 780 km.
Oui, quand même.
Donc c'est pas juste la petite promenade de l'après-midi, on aboutit à Jérusalem, mais pim. Donc 780 km, puisque le texte nous précise qu'ils n'ont pas pris le bateau. Ils passent par les terres. Donc la Phénicie, si vous voulez, c'est la bande côtière quand on va de la Syrie, le Liban actuel, si vous voulez. On descend tout le long de la côte par la voie impériale. Puis ils ont bifurqué vers la Samarie pour couper par les montagnes, pour aller au plus rapide vers Jérusalem, si vous voulez. Mais c'est quand même 780 bornes, soit 1560 km aller-retour. Parce qu'ils vont revenir apporter une réponse à Antioche, la délégation. Y compris pour les Barnabas. Donc, ce projet de voyage a un coût.
Une durée incroyable.
Uniquement à pied ou ils avaient des mulets ?
Mulets ou pas, à mon avis, il faut quand même plus d'un mois pour faire le truc.
C'est pas des grandes routes, c'est des petits chemins.
D'autant qu'on apprend. Qu'on apprend.
Il s'arrête.
Il
faut bien s'arrêter.
Il y avait des voies romaines, là, ou pas ?
Ah, après, dans les montagnes, c'était des chemins.
C'était des chemins.
Des chemins de, comment on appelle ça, de transhumance de bétail.
Ben oui, c'est ça.
Des caravanes.
Mais le long de la côte, c'est vraiment des voies romaines. Ah. Oui, parce qu'ils descendent vers Césarée, si tu veux, tout droit. Donc, la première partie du voyage cool, mais après, les montagnes, un peu moins cool. Et on apprend dans la suite du verset qu'en fait... pendant tout ce trajet, ils s'arrêtent partout où il y a des églises, petites communautés messianiques, composées en Samarie en majorité de gens qui ne sont pas acceptés par les juifs.
Rappelez-vous. Il fallait bien qu'ils dorment quelque part.
Oui, de toute façon. Oui. Mais ils en profitent. Donc, on a le texte qui nous dit, passant par la Phénicie et la Samarie, ils y racontaient la conversion des nations païennes et procuraient ainsi une grande joie à tous les frères. Alors, le but, évidemment, c'est sans doute de rendre visite en cours de route, faire une pierre deux coups, rendre visite et solidifier les communautés messianiques existantes le long du trajet. Mais peut-être faut-il comprendre que c'est aussi tout simplement pour contrecarrer l'enseignement des judaïsants qui sont descendus d'Antioche vers Antioche, peut-être en prenant la même route. Donc s'ils n'ont pas pris le bateau, c'est peut-être parce qu'ils avaient aussi une stratégie. Parce que c'était quand même plus facile de prendre le bateau à Séleucie, le port d'Antioche, pour aller directement à Acre, etc., ou à Césarée, et débarquer, il n'y avait plus qu'à la monter à Jérusalem. Non. Préfère se fatiguer, marcher ou être à dos de mulet, peu importe, et au passage, encourager les communautés messianiques dans l'idée que les païens se sont tournés en masse, en tout cas dans les terres païennes, vers le Christ. Donc, on fait une pierre deux coups. On corrige un peu le tir de ceux qui auraient pu passer par là pour dire qu'il fallait circoncire, il faut ici, et ici. Maintenant, on a la certitude avec ce texte qu'aucun des représentants judaïsants ne les accompagne. Ils n'auraient pas fait ça si ceux qui étaient descendus les voir étaient avec eux.
Ils auraient fini par se disputer.
Donc, sans doute que les judaïsants sont restés à Antioche pour continuer leur travail de sape. Se disant, ben, on verra bien la réponse de Jérusalem et on va sans doute avoir une réponse positive de Jérusalem. Donc eux, ils continuent le matraquage, tandis que notre délégation remonte à contre-courant vers Jérusalem, essayant de donner la bonne nouvelle de la conversion des païens à un maximum de gens. En tout cas, je pense sincèrement que les judaïsants qui étaient venus à Antioche sont quasi persuadés que Jérusalem va dire oui, c'est eux qui ont raison. Parce que jusque-là, Jérusalem ne s'est pas prononcée. Mais Jérusalem, ils vivent quasi entre juifs. Donc la question ne se pose pas. Oui. Ce n'est pas une actualité pour eux de savoir est-ce qu'il faut que les païens soient circoncis. À la limite, ce n'était pas leur problème. Ça le devient pour les pharisiens qui sont beaucoup plus à cheval sur les choses et qui disent « Oulala, on apprend que des tas de païens se tournent vers la voie messianique, ça va devenir quoi le judaïsme ? On va plus être chez nous !» Non, je rigole, hein. Mais il y a un peu de ça, quoi. C'est mal à l'aise.
Parce que tu as toujours dit que effectivement c'était un courant.
Ah, tant que ça reste un courant parmi les juifs, ça ne pose aucun problème.
Voilà. Mais il faut quand même qu'il soit...
On entend dire que des païens se tournent en masse. Et vivent même dans des communautés où les juifs sont minoritaires. En tout cas, pour l'Asie, ce qu'on vient de voir du premier voyage, les communautés mixtes avec une majorité de juifs sont quasi absentes. Donc c'est plutôt l'inverse en terre païenne. Beaucoup de païens, peu de juifs. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va accepter que le judaïsme se fourvoie et devienne un truc n'importe quoi, où il n'y a pas de séparation entre pur et impur, où on ne respecte pas la loi de Moïse ? Bon, moi, je peux comprendre, hein, si je me mets à la place des pharisiens, que c'est un vrai problème, quelque part. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire ?
Ils étaient persuadés qu'ils allaient avoir...
Oui.
Des
cartes
filles.
C'est le dernier truc
qu'il
a dit. Bien sûr, dans les églises où ils passent, en Phénicie ou en Samarie, ben, ils sont accueillis... à bras ouverts avec un tel discours. Ça les conforte aussi dans la position que, oui, on est bien comme on est, et puis on n'a pas besoin de circoncision. Et même pire, en Samarie, c'est même pire que des païens pour les juifs, quoi, tu vois. Donc, si les Samaritains sont confortés dans leur idée qu'ils peuvent continuer à adorer le Dieu d'Israël qu'ils adorent depuis des millénaires...
sur la même montagne, mais quand
qui
même.
N'ont pas besoin, enfin voilà, pourquoi pas, quoi. Alors, moi, ce qui est intéressant, c'est le texte, là, nous dit qu'il racontait, donc ça veut dire, le verbe utilisé d'ailleurs en grec est très fort, ça veut dire raconter dans les détails. Donc, vous imaginez le temps que ça a dû mettre pour monter à Jérusalem. Si je m'arrête dans chaque communauté messianique pour raconter... deux, trois ans de voyage missionnaire en Asie mineure, les succès rencontrés, les difficultés rencontrées, ça peut durer un petit moment quand même. Et ces nouvelles-là procurent une grande joie à ces églises mixtes, beaucoup moins strictes évidemment que celles de Jérusalem, hein, que les courants les plus orthodoxes. Donc les résultats positifs de l'annonce de la bonne nouvelle... sont non seulement recevables, mais très encourageants. Donc eux, ils sont super heureux. Une seule certitude demeure pour eux, Dieu est à l'œuvre, et on est dans le bon, et on va continuer comme ça. Une sorte de consolation aussi, surtout s'ils ont entendu un discours différent sur « il faut vous circoncire », etc., etc. Et puis là, donc, le discours de Luc bascule. Là, on sait ce qu'ils ont fait pendant le voyage, qui a peut-être duré un mois, deux mois. Et ils arrivent à Jérusalem. Et là, que se passe-t-il ?
Ils sont accueillis par l'Église.
Ils sont accueillis.
Alors, ça veut dire bien reçu. Hein, quand on accueille, voilà. C'est pas je boude et vous viendrez quand on voudra. Non, ils sont accueillis à bras ouverts par l'Église. Alors, on dit bien l'Église, c'est-à-dire tous les fidèles de Jérusalem sont heureux de revoir Barnabas. Ce Barnabas, c'est quand même quelqu'un qui a été mandaté par Jérusalem. Lui, à défaut pour ceux qui étaient descendus là, foutre le bazar à Antioche, lui, il a vraiment été mandaté pour aller aider cette église naissante. Alors, rappelez-vous, Antioche est né du travail de quelques chypriotes qui étaient arrivés de Chypre et qui avaient commencé à dire « Ah, nous, on a quelque chose à vous apprendre, le Messie, ceci, cela. » Et les Juifs, en grande partie, s'étaient tournés vers le Messie et ont drainé avec eux un certain nombre de païens, parmi eux des craignant Dieu, bien entendu, mais ça a fait boule de neige, quelque part. Donc, Barnabas, lui, a vraiment commencé l'œuvre. Donc, il a achevé celle des Chypriotes, si vous voulez, qui étaient ses compatriotes, d'ailleurs. Oui, parce qu'il est aussi originaire de Chypre, lui. Mais il était à Jérusalem, à ce moment-là. Et donc, c'est le collège des anciens et les apôtres qui disent « Toi, tu vas y aller, parce que tu connais les Chypriotes ». Et tu vas édifier quelque chose qui tient la route à Antioche, puisqu'on a entendu qu'il y a des païens qui se sont tournés vers la voie messianique. Donc voilà, lui, il est en territoire connu. Il va à Jérusalem, rubis sur l'ongle, quoi. Il n'y a aucun souci. Il va être accueilli à bras ouverts. Et Paul aussi est connu, puisque si vous vous souvenez bien, Paul a déjà fait un premier voyage à Jérusalem avec Barnabas, qui l'a accompagné pour le présenter aux apôtres. Et Pierre a eu, lui, un contact particulier avec Paul. Et donc, Paul est connu et reconnu pour être l'apôtre des païens. Donc, ça ne leur pose pas de problème qu'il ait été faire sa première tournée missionnaire en Asie mineure. Au contraire. Donc, pour eux, c'est OK. Ça ne pose aucun problème. C'est pour ça qu'ils sont accueillis. Et en plus, la délégation d'Antioche. Alors, Antioche, la première église hors sol, si vous voulez, hors territoire d'Israël, composé de juifs et de païens, ben oui, ils sont super heureux. Donc, tout se passe bien jusque-là. Toute l'Église les accueille, ainsi bien sûr que les apôtres et les anciens, ce qui est quand même un grand honneur, quelque part, quoi. Et eux, il est dit, enfin dans la tobe dit, et ils mirent au courant de tout ce que Dieu avait réalisé avec eux. Sous-entendu, Paul et Barnabas. Le travail de Paul et Barnabas à Antioche, en Asie mineure, etc. Et c'est à toute l'Église, nous dit donc le texte, qu'ils font rapport de ce que Dieu a fait avec eux en territoire païen. Donc on se rend compte que le rapport n'est pas réservé à une élite, à ceux qui pourraient décider, donc aux apôtres, aux anciens de l'Église de Jérusalem, mais tout le peuple est là et tous les fidèles sont présents et écoutent cela. Et pendant, enfin à la fin de ce rapport, évidemment, j'ai presque envie de dire c'est la bonne cause, ben des fidèles issus du pharisaïsme interviennent. Et qu'est-ce qu'ils disent ? Est-ce que le discours est différent de ce qu'on a vu à Antioche ?
Ben non. L'observation de la loi, l'observation complète de la loi.
Oui. Oui. En plus, toute la loi.
Ouais, toute la loi.
Donc pour eux, c'est assez catégorique quand même. Hein. Ouais. C'est très lapidaire, cette phrase, mais ça veut dire le courant pharisien messianique, je le rappelle, donc des convertis au Christ Jésus, disent de manière catégorique circoncision et observation de toute la loi.
ça laisse sous-entendre quand même que ceux qui étaient à Jérusalem continuaient l'observation de la loi, tout en étant chrétiens.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, certains continuent à aller au temple, même Paul, hein, offrir des sacrifices, etc.
C'est bien ça.
Pas de souci. Comme on l'avait vu au tout début des Actes, d'ailleurs. Tout ça continue à aller tout à fait normalement. Parce que ce centre juif.
Oui, en fond, Jésus l'avait fait.
Mais bien sûr, bien sûr. Et ses parents l'avaient fait. Ouais. Voilà, bon. Aucun souci. C'est des juifs, ils pratiquent les rites sans problème. Juste avec cette différence, c'est qu'ils reconnaissent que le Messie est là, ou est venu, en tout cas. Alors. C'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, Luc nous apprend qu'il y a donc un courant pharisien parmi les messianiques. Et on peut comprendre pourquoi, parce qu'en fait, les pharisiens ont été des sympathisants de Jésus, déjà du temps de son vivant, et secondo, c'est aussi des gens extrêmement versés dans la loi. Donc c'est des fins connaisseurs de la loi. Donc si on veut ne pas faire de bêtises dans la voie messianique, avoir le secours des pharisiens n'est pas si mauvais que ça. Donc ils sont très appréciés, en fait, à Jérusalem. Personne ne les voit comme des empêcheurs de tourner en rond, des gens qui coupent les cheveux en quatre, etc. Mais malgré leur foi en Jésus, ils soutiennent, et c'est ça qui est extraordinaire, la nécessité de la circoncision et de l'observance de la loi. Mais contrairement à ce que disent certains de nos textes en français ou certains commentateurs, il n'y a pas ici d'esprit vindicatif. Ils ne sont pas en train de dire c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est un peu moins vindicatif qu'à Antioche, à la limite, mais en bons pharisiens, ils insistent de manière quand même catégorique sur le principe de séparation. D'ailleurs, pharisien, ça veut dire les séparés. C'est pas pour rien. C'est la secte des séparés. Bon, sous-entendu, si les païens se convertissent au Dieu d'Israël grâce à Jésus, grâce au Messie, et bien qu'il soit comme nous. Parce que nous aussi, on croit en Jésus. Et on est circoncis et on observe encore la loi de Moïse. D'accord ? Mais aussi, ça nous montre une chose, c'est qu'en Judée et à Jérusalem, on n'avait pas encore conscience qu'on pouvait s'émanciper de l'observance de la loi. Voilà. Donc le débat théologique n'est pas mené parce qu'ils ne sont pas confrontés à ce débat. Ils ne vivent pas avec des païens au quotidien dans l'Église. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, pour eux, ce n'est pas un débat actuel. Mais là, vu le rapport de Paul et Barnabas à l'Église, ils se disent, oula, si on les laisse dire comme ça, et si l'Église de Jérusalem accepte que ça, c'est la normalité, le judaïsme est en voie de disparition. Donc, il faut défendre, il faut monter au créneau, gentiment, hein, entre nous soit dit. Mais alors, ça pose une question, et qui va faire débat à Jérusalem. C'est quelle est la spécificité de la foi en Jésus, alors ? À quoi sert-elle, cette foi ? S'il faut quand même être juif et observer toutes les règles du judaïsme, qu'est-ce que Jésus vient faire là ? Quel est le salut qu'il offre, finalement ? Vous voyez ce que je veux dire ? Ça remet complètement en cause l'attitude même de Jésus, son enseignement, et surtout le résultat. Le résultat, c'est l'ouverture aux païens, quand même. Alors, on pourrait presque poser une question, pourquoi croire en Jésus ? Si c'est finalement pour embrasser le judaïsme conventionnel dans toute son orthodoxie. Ça n'a pas de sens. Et c'est là que l'Église de Jérusalem est interpellée. Face au discours des pharisiens, elle se dit, oui, mais bon, là, il y a quelque chose qui ne va pas. On veut bien se mettre à votre place, vous êtes pharisien, observant strict la loi, etc. Mais on doit aussi accueillir les païens. Donc quelque part, il va falloir trancher. En tout cas, trouver un compromis dans cette affaire, quoi. Et c'est la raison pour laquelle on voit que les apôtres et les anciens, alors les anciens, c'est donc les dirigeants de la grande église de Jérusalem, qui sans doute est divisée en sous-églises, Il y avait, comme vous le souvenez, quand on a fait le début des actes, il y avait des communautés un peu partout dans Jérusalem. Ce n'était pas juste une grosse église, puisqu'il n'avait déjà pas de bâtiment. Donc on se réunissait dans les maisons, là où on pouvait, ou dans la cour du temple. Et donc, ces anciens-là qui dirigent la grande église de Jérusalem, et les apôtres se réunirent pour examiner cette affaire, dit la Tobe au verset 6. Ils se retrouvent donc, eux, au cœur du problème. C'est vers eux qu'on fait remonter cette thématique développée à Antioche, mais qui va se développer partout, partout où les païens vivent dans la synagogue. Ils ont en tout cas la responsabilité de devoir trancher pour éviter que se propage le conflit dans toutes les communautés messianiques mixtes, en tout cas, en Judée comme ailleurs. Et donc le débat c'est quoi ? C'est faut-il, oui ou non, demander la circoncision aux païens ? Ou l'observance de la loi, c'est le fief bruit. D'autant plus que Paul et Barnabas viennent de démontrer que c'est Dieu lui-même qui accueille les païens. Ce n'est pas eux. Ils ne sont pas mandatés, autoproclamés, pour dire « Ah, c'est l'heure de l'ouverture des portes du judaïsme aux païens ». Non, c'est Dieu qui leur force la main, d'une certaine manière, et qui fait entrer dans la voie messianique des peuples de différentes ethnies, de différents langages, etc. Alors, les apôtres et les anciens, ben, ils veulent affronter cette situation. Ils veulent trouver un consensus qui soit honorable pour toutes les parties. Il ne s'agit pas de prendre position. C'est toi qui as raison, c'est toi qui as tort. Ils veulent trouver le meilleur modèle d'intégration des païens dans la communauté messianique. Et ils sont finalement placés devant un dilemme. Soit il faut camper, demeurer dans le judaïsme radical, orthodoxe, ce qui va rendre les choses difficiles, ou évoluer vers une autre manière d'être en relation avec le Dieu de l'univers. Ils sentent bien que le débat est là. C'est où on est juif, juif jusqu'au bout des ongles, où l'ouverture aux païens provoque une évolution de la voie messianique qui va donc nécessairement un peu se distancer du judaïsme traditionnel, quoi. Donc c'est pas une petite affaire. En plus, on ne peut pas dire tel modèle est bon, tel autre est mauvais. On sent bien que les apôtres ne vont pas dire « Ah, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'était faux. Hein, on ne va plus aller au temple, on ne va plus offrir de sacrifices, etc. Et on va juste être comme les autres. Hein, on ne va même plus demander la circoncision des Juifs. Ben » non, ce n'est pas tenable. Donc eux, ils sont un peu à cheval entre deux trucs et ça ne va pas être facile d'arriver à quelque chose. Et on verra dans les péricopes qui suivent qu'il faudra quand même de grosses discussions pour enfin trouver quel est le meilleur consensus qu'on puisse avoir, quoi. On peut d'ailleurs se demander, parce que le texte ne nous le dit pas, si les gens de la voie pharisienne sont ouverts à l'idée d'un consensus. Moi, je pense que oui, puisque le reste du livre des Actes ne va pas nous montrer de scission extraordinaire dans le courant de l'orthodoxie. Donc ceux qui sont à Jérusalem ne vont pas entrer en conflit avec les pharisiens. Les pharisiens vont finalement accepter la décision parce que c'est une décision collégiale. On peut même supposer, et je crois qu'on n'a pas tort de le supposer, que parmi les dirigeants de l'église de Jérusalem, il y a des pharisiens. Il y a des gens de tous les bords. Donc à un moment donné, ceux qui vont trancher vont respecter toutes les parties et vont décider, enfin théoriquement en tout cas, décider quelque chose qui puisse être accepté par toutes les parties. Mais ça demande un débat de fond. On ne va pas analyser aujourd'hui puisque ce n'est pas le but de la péricope. Donc eux sont partis dans l'idée d'affronter la question, de répondre à la question « faut-il rester dans le judaïsme ou pas ? Faut-il évoluer ou non ?» Et on sent bien que ça va se passer d'une manière très ouverte, puisque le verset 12, je ne sais pas si vous êtes allé voir comme ça par curiosité, on découvre que cette conférence des élites, elle a lieu publiquement, devant toute l'église de Jérusalem. Donc ce n'est pas à huis clos, ce n'est pas un débat entre chefs, là on va décider quelque chose, et tant pis si la masse n'est pas d'accord. Non, non. Eux, ils débattent clairement devant tout le monde Mais seuls, je dirais, les leaders débattent. Sinon, ça serait sans fin. T'imagines débattre avec un millier de personnes, avec un fait-on, circoncision, pas circoncision, etc. Donc, au fond, on pourrait presque dire que les fidèles de Jérusalem sont les témoins de la qualité du débat. Et peut-être ont-ils aussi leurs orateurs préférés, leurs fans, un peu le fan club de l'un, de l'autre. Et ça donne une indication, d'ailleurs, au chef. S'il y a des gens qui approuvent, hein, que ce soit par le murmure, un petit applaudissement, telle ou telle phrase, tel ou tel discours, on sait plus ou moins quelle est la température de la communauté de Jérusalem à ce niveau, quoi. Donc voilà, ça se passe comme ça. Et du coup, c'est pour ça que j'ai arrêté le verset là, on sait que ça va se passer comme ça, mais on ne connaît pas encore, puisque c'est seulement à partir du verset 7 et suivant, qu'on entre dans le vif du sujet. On va entendre, enfin Luc va nous rapporter quelques bribes des échanges qui ont eu lieu à ce sujet et comment on va aboutir à une décision. Alors, beaucoup de nos bibles ont le titre « Concile de Jérusalem », c'est un peu pompeux quand même. On pourrait mettre le mot « conférence » ou « débat », un débat sur la circoncision, etc., des païens. On a un peu l'impression là d'un truc très ecclésial, hein, monumental, un concile à Jérusalem. En tout cas, l'idée, c'est qu'il y a eu une vraie discussion, ouverte, sans tabou, et devant témoins. Donc on ne pourra pas dire « Ah, mais vous avez décidé en cachette. Ah, vous avez fait ci, vous avez fait là. Vous avez manipulé le monde. » Non, non. Ça se passe au vu et au su de tout le monde. Qui veut venir, peut venir. Qui veut assister, tout l'a duré, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça a duré. Voilà. C'est clair et c'est net, quoi. Voilà, je pense qu'on a bien voyagé. Alors, de nouveau, j'étais assez interloqué parce que quand j'ai commencé à lire le texte il y a une semaine et demie, toujours un peu d'avance, je me suis dit, 6 versets, c'est quand même assez simple, finalement, cette histoire. Mais quand on entre dans le débat circoncision, pas circoncision, on se rend compte que c'est beaucoup plus... c'est polémique, en tout cas. C'est quelque chose qui aurait pu tourner vraiment au vinaigre, créer de vrais, vrais conflits. Et pas seulement à Jérusalem, mais partout, dans toutes les communautés messianiques, quoi. Donc, ils ont une tâche assez compliquée et difficile à réaliser. Et je suis assez frappé, enfin, pour la suite du texte en tout cas, de voir avec quel courage et brio, finalement, les débats sont menés jusqu'à ce qu'on puisse arriver à une conclusion quand même. Et on y reviendra plus tard.
Je ne sais pas définitif, hein, finalement. Je vais dire, si on regarde l'histoire jusqu'à Constantin... qui marque un schisme, hein, une séparation. Jusque-là, on avait l'impression que tout le monde vit bien ensemble. On voit à un moment donné quelqu'un qui dit « Oui, mais on doit se différencier, on va choisir d'autres jours, on va faire d'autres fêtes, on va s'habiller différemment, on va faire ceci, on va faire ça. Mm-hmm. » Et on va créer finalement un schisme bien, bien net. Mais pendant quand même quelques siècles, ça avait l'air d'être...
En tout cas, les deux premiers siècles, on sait d'un point de vue historique que beaucoup de communautés sont restées messianiques avec des païens et des juifs. Mm-hmm. Ouais. Mais alors après, parce que là, apparemment, le consensus a fonctionné.
Ah oui ?
Qu'on verra dans le texte, hein, la décision va être appliquée à peu près partout, sans que ça fasse de vagues. Mm. Alors après, évidemment, on ne doit pas oublier... l'impact de Constantin, effectivement, qui fait que la religion, enfin, ce qui n'était pas une religion, va devenir une religion. Et une religion d'État.
Et plus une foi.
Parce que jusque-là, c'est un courant messianique, sorte de mélange avec une bonne base juive, j'ai envie de dire, ou une bonne base dans l'Ancien Testament. Il n'y a pas de grosses différences.
Non, et ça a l'air de bien se passer, quoi.
Ah ben, il y a des communautés synagogales qui ont vomi la voie messianique, hein, ça c'est leur droit. Ils ne sont pas obligés de rester ouverts à tout. Mmh. Donc il y a quand même des communautés qui se sont séparées, qui ont voulu rester puristes et orthodoxes. Mmh. Mais globalement, en tout cas pour le Nouveau Testament, ce qu'on découvre, c'est que jusque-là, On vit pacifiquement et on sait historiquement que ça sera vrai pendant les deux premiers siècles. Après, ça devient un petit peu plus compliqué.
C'est compliqué.
Mais après, il faut bien se dire que l'Empire romain a fait la chasse aux chrétiens. Mais pas aux juifs, nécessairement.
Quand ça ?
À quel avant Constantin, juste avant Constantin.
Ah, juste avant Constantin. Ah, bah oui,
t'as question. Plusieurs empereurs qui ont été très critiques par rapport au christianisme. Parce que cette voie messianique les mettait en péril. D'abord, ça avait gagné le monde de l'esclavage.
Ah ouais.
Ça plaisait pas à tout le monde. Les chrétiens n'étaient pas pour le culte à l'empereur. Enfin, il y avait plein de raisons qui font que tout d'un coup, l'Empire a décidé de massacrer la voie messianique en s'attaquant principalement aux chrétiens, et notamment les chrétiens proches d'eux. C'était plus des païens que des juifs, hein, des gens d'origine païenne que des juifs. Alors on sait qu'ils avaient déjà massacré des juifs. Hein,
oui.
Voilà. Et ils le feront encore. Mais pas pour des raisons de religiosité. Jusque-là, les Romains avaient accepté que les juifs avaient leur religion, comme ils ont accepté les autres religions de l'Empire romain. Ils s'en foutent, eux. Mm-hmm. Mais la voie messianique, le soi-disant christianisme, va devenir un vrai problème, une épine dans une écharde dans le pied du colosse romain, quoi. Ça plaît pas à Rome. Et il faudra du temps. Deux petits siècles au moins avant que ça fasse des vagues. Et après, ça va être vraiment la persécution, hein. Terrible. Là, on va plus rigoler, quoi. Et ça va pas empêcher l'évangile de continuer à se propager, bien au contraire. Voilà, donc il nous reste quelques minutes. On peut peut-être regarder si on a l'une ou l'autre application ou question. Sur ce texte, alors il y a des questions qu'on aurait pu soulever, mais je trouvais ça un faux débat. Vous savez que Paul raconte plus ou moins les mêmes choses dans l'Épître aux Galates. Et alors certains commentateurs essayent de fusionner ou de faire superposer les deux événements. Ce que Paul raconte aux Galates est-il ce qui s'est passé là, ou les vice-versa? Moi, je ne le pense pas personnellement. Et laissons à Paul le droit de raconter une histoire qui lui est arrivée.
Tu penses que ce n'est pas le même événement?
Ça ne concorde pas au niveau date, en tout cas. Donc, on est tous un peu dans l'expectative. Mm-hmm. Mais en même temps, je ne trouve pas que c'est fondamental, hein, par rapport à notre lecture des Actes, de savoir est-ce que Galates dit la même chose que les Actes. En tout cas, c'est les mêmes problèmes.
Oui, parce que moi, j'étais justement, avant de lire ceci, je lisais Galates avec un lecteur, tu vois, quotidien. Et quand j'ai lu ça, j'étais pas...
C'est la même chose.
Je pense que certains acteurs sont un peu différents, parce que... Alors, j'ai plus tout le texte de Galates en tête, mais il me semble que Pierre... On lui vole dans les plumes.
Ouais,
dans ce qui se passe, on sait que c'est aussi entre apôtres qu'il y a un désaccord. Ouais. Entre ceux qui sont envoyés vers les païens, à un moment donné, Pierre ne joue pas la bonne carte et il se fait quand même un peu rentrer dans le chou par Paul. Et ça, si tu le compares à notre histoire à nous,
ça peut pas être
la même histoire totalement. Pourquoi les Actes feraient l'impasse sur... Pierre, qui d'ailleurs se trouve à Jérusalem, il n'est pas du tout en territoire païen à ce moment-là. Mmh. Quel est le rapport, quoi, tu vois? Voilà. Puis il y a des questions de datation qui peuvent difficilement laisser se superposer les deux textes. Mais c'est bien de savoir qu'il y a eu des épisodes comme ça.
Oui.
Donc c'est la question s'est posée, notamment en territoire païen,
se repose.
De savoir jusqu'où on peut aller dans l'ouverture et l'acceptation, ou presque, je dirais, l'hégémonie des païens dans la voie messianique. Mmh. S'ils deviennent majoritaires, qu'est-ce qu'on devient, nous?
Ça signifie aussi, du coup, que des questions qui ont été réglées reviennent
d'autant plus qu'on n'est pas à l'heure d'Internet, quoi. Donc, nécessairement, il faut attendre le voyage. Tu as vu le voyage, là, peut-être 2 mois. Il faut attendre le retour. Dans 4 mois, on aura peut-être une réponse. On saura peut-être quoi faire. Non, ça, tout était là. Donc, nécessairement, les débats ont lieu, et ils sont plus ou moins les mêmes, dès que se pose la question de « Oui, il y a beaucoup de païens qui entrent dans l'Église, que fait-on ? Comment on va gérer nos rapports ?» est-ce qu'il faut leur demander de nous ressembler voilà, bon, moi je trouve que c'est légitime, c'est des questions légitimes.
C'est difficile de changer.
Et ça va obliger l'Église à se dire, mais quelle est la place de Jésus dans tout ça?
Ce que je trouve comique, c'est que je me dis, s'il s'était arrêté à la circoncision seule, j'ai l'impression que ce serait passé. Ça aurait pu passer toi, comme signe d'appartenance, etc. Mais que c'est le fait d'avoir voulu absolument la loi, l'observation de la loi, où
de toute
là, ça n'a plus de sens. Ça supprime le sacrifice de Jésus, enfin, l'effet du sacrifice. Tandis que juste la circoncision...
Oui, après tout, Jésus était circoncis. Hein, voilà, voilà. Donc, oui, ça aurait pu ne pas poser de gros problèmes.
Ouais. C'est parce qu'après, et dans Galates, ben oui, mais comme tu vois, forcément, tu ne tu sais pas faire abstraction, mais ils vont mettre le point sur le fait bah, dire tu mets le païen sous le joug de la loi.
Or, ouais, exactement.
La circoncision, c'est pas, ça peut ne pas être un joug, ça peut juste être un signe. Quoi.
Ouais, comme le baptême.
Comme le baptême,
ouais, exactement.
Comme la croix. Comme,
ouais, c'est ça.
Pas, c'est pas une obligation pour être sauvé, mais c'est un signe. Mm-hmm. Dis, bah, et là, par contre, le reste.
Et en même temps, si tu veux, si on se met du côté plutôt du camp des païens, pourquoi accepter une circoncision qui est le signe de l'alliance du peuple élu à son Dieu d'origine?
Oui, c'est ça. Pour montrer qu'on fait partie du peuple élu.
Oui, bien sûr, je pense qu'ils auraient pu faire un pas. Mais en même temps, tu as quand même ces annonces répétitives des prophètes et aussi de Jésus sur l'idée qu'un jour, toutes les nations deviendront l'adorateur du Dieu de l'univers, du Dieu d'Israël. Mmh. Et il n'est pas question de devenir juif.
Ouais.
Dans aucune de ces annonces, qu'elles soient prophétiques.
Et quand on parle de la circoncision du cœur, c'est déjà dans l'Ancien Testament.
En tout cas, je pense qu'Ézéchiel en fait
allusion.
Et l'idée, c'est que des cœurs soient transformés, c'est pas que la chair soit transformée pour avoir accès à Dieu. Donc voilà, je pense qu'à un moment donné, le débat, il est légitime, mais quelqu'un va devoir trancher. Et on sait que Jésus a déjà tranché. Parce que dans ses attitudes, lui qui était circoncis, il a tout fait pour faire le contraire de ce que les pharisiens voulaient. Bah, pas par provocation. Bah, il assume sa différence. Et c'est ce qui me fait dire...
Sa guérison le jour du sabbat.
Exactement. Cueillir du blé un jour de sabbat, etc. Provoquer des débats sur à quoi sert le shabbat, finalement. Et la controverse avec les pharisiens, souvent. Alors moi, j'observe une chose, peut-être en termes d'application, c'est que finalement, quand on commence à croire en Jésus, alors qu'on soit d'origine juive, d'origine païenne, tout ce qu'on veut, la foi en Jésus, c'est toujours un bouleversement. Bon, c'est un bouleversement de toutes nos habitudes, toutes nos valeurs, toutes nos cultures, partout et en tout lieu. Donc n'importe quand que l'évangile est annoncé, si je dis oui à cet évangile, je rencontre un Christ qui m'oblige au changement. Et donc ici, je pense que c'est aussi vrai pour le juif attaché à la loi et à l'alliance, va devoir aussi évoluer à cause du Christ. Enfin, j'imagine, je suis juif, je sais que Jésus était juif, Jésus a dit, Jésus a fait, Jésus a annoncé, et moi je ferai autrement. Je me tiendrai à distance de celui que je considère comme le Messie. Ça n'a pas de sens. À un moment donné, si tu vas au bout du projet messianique, tu sais que même en tant que juif, tu vas devoir changer et accepter davantage la circoncision du cœur que celle du prépuce.
Et ça, c'est vrai que ça a dû être vachement particulier parce que ces gens-là étaient déjà sauvés. Dans leur conception,
exactement,
ils étaient déjà sauvés, et maintenant on leur dit ah, bon, on va changer, on va changer le moyen
de
ça devait être ça devait être spécial.
Oui, parce que c'est clair que l'attachement des juifs encore aujourd'hui à la loi de Moïse est extraordinaire, alors qu'ils ne peuvent en appliquer que un dixième peut-être, puisqu'il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus tout ça,
il n'y a plus le temple, donc
Ils restent très attachés. Et tant mieux d'ailleurs. Je crois que c'est un peuple qui continue à poser question à l'ensemble de l'humanité. Mais en même temps, ça ne doit pas nous faire oublier que le plus juif des juifs a montré une voie qui peut être concordante pour tous, c'est-à-dire autant ceux qui sont d'origine juive que le païen. Et qu'ensemble, on peut être des adorateurs du Dieu universel. Et qu'il est question de salut. Bon, voilà, il y a un changement profond et éternel.
Plus question de race, en effet, quelles que soient nos origines.
Voilà, en même temps, est-ce que vous avez des applications? Parce que moi, j'avais ça qui me taraudait quand même, l'idée que croire en Jésus ne laisse pas neutre et nous oblige au changement, qui que l'on soit.
Moi, je trouvais qu'il y avait quand même une forte tolérance dans ces églises.
Oui.
Ouais, où justement, ils ne s'étaient pas posé toutes ces questions de base, même tous les juifs qui étaient présents, et ils ont accueilli, voilà, ils se sont accueillis les uns les autres, ils se sont complétés probablement, et ils se disent, est-ce qu'on a encore toujours cette tolérance?
Ouf-toi.
Bah ouais, mais bon,
poser la question, c'est donner déjà une réponse.
Comme tu l'as dit, le débat par exemple en Galate, c'est entre quelques personnes, ça rejaillit sur la vie d'église, mais quelque part, c'est déjà parmi les chefs qu'on se pose parfois les bonnes questions. On se dit, maintenant, il va falloir quand même décider quelque chose. Parce qu'on ne peut pas rester comme ça, à cloche-cul entre deux trucs, ou à laisser pourrir une situation, et pour aller vers où, vers quoi. Il fallait être courageux, quoi.
Et eux, ils disent nulle part que ça posait problème, cette cohabitation, finalement.
Enfin, non.
Tu demanderais presque si c'est pas le fait d'être un peu trop accroché aux écrits qui font que ce qui se passait bien naturellement finit par capoter, quoi. Mm-hmm. Ouais, on n'y était pas, c'est difficile de savoir comment ils le vivaient pour du vrai, quoi, mais...
En tout cas, tu as raison de souligner que le débat existe dans l'Église. Mm. Et c'est un débat normal, légitime, je dirais même apaisé, même si ça peut être vif à certains moments. Et on peut se poser alors, nous, la question, est-ce que nos débats d'Église ont la qualité de... de ceux de l'époque, je pense que non. Parce que très souvent, pour nous, aujourd'hui, les débats se déroulent à huis clos. Hein. On ne nous convoque pas pour nous dire, tiens, écoutons un peu le pape et ses évêques pour voir ce qu'ils ont dans la tête, ce qu'ils vont mettre en place, comment ils vont gérer tel truc. Voilà, et chez les protestants, c'est pas mieux. Parce que là, je pense qu'il y a une poignée de gens qui décident à la place de tout le monde, hein, globalement. De manière autonome, chacun dans son coin. C'est pas beaucoup mieux. Rares sont les églises dans lesquelles j'ai pu vivre où les débats ont eu lieu publiquement.
Dans l'Église catholique, maintenant, il y a la synodalité.
Ah, voilà, donc ça devient intéressant. Et dans le milieu réformé aussi, on insiste sur la qualité d'un débat public, même si ça peut être vif, difficile à un certain moment. Et je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut faire évoluer les choses, oser la discussion à caractère public du moment qu'on en rejette la violence. Merci.
Et lors du dernier synode sur la synodalité, il y avait des laïcs et les prêtres et les évêques, tout le monde avait le même temps de parole. Mm-hmm. Donc c'est la première fois que ça se faisait comme ça. Quoi. Mm-hmm. Donc là, il y a quand même un progrès. Quoi.
Donc on pourrait dire pédagogie du dialogue et de la responsabilité. Ouais. C'est ce que devrait être un leitmotiv dans l'Église, quoi. Ce qu'on recherche, c'est que les gens soient capables de dialogue et soient capables d'être responsables.
Et respectueux.
Dans une visée d'attachement au Christ, d'ailleurs. Ouais. Pas juste politiquement, comme non, ça, non. Parce qu'on a envie.
J'étais allée dans une autre direction. Je ne sais pas si j'avais raison, parce que c'est très intéressant tout ce que tu viens d'expliquer. Mais j'y sentais un peu une volonté d'uniformiser, comme on a parfois dans nos assemblées ou quoi. Mmh. Il faut que les autres soient tout à fait comme nous. Donc ils viennent, ils ont leurs habitudes, leur culture, viennent d'un autre pays ou d'un autre milieu, un autre mode de pensée et tout. Ouais. Et s'ils ne parlent pas tout à fait comme nous, s'ils ne font pas tout à fait comme nous, on a l'habitude de faire, mais ça nous dérange, quoi, quelque part. Hein. Indépendamment, évidemment, de la base qui est la foi en Jésus qui doit être maintenue. Mais...
C'est toi ce que tu avais vu dans le texte.
Je le ressentais comme ça. Je n'avais pas pensé à tout ça, tout ce qui est
c'est la sûr volonté que de. Nos braves pharisiens qui descendent de Jérusalem vers Antioche, ils veulent défendre leur beefsteak de pharisiens. Et imposer, donc, quelque part, à cette communauté messianique hors Israël et composée en partie de païens, une règle qui soit celle du judaïsme.
Et c'est sécurisant que les autres soient tout à fait.
Mais comme... on observe, à contrario, qu'Antioche accepte l'enseignement. Antioche ne leur dit pas non, mais fermez-la, retournez à Jérusalem.
Oui, c'est ça.
Hein,
oui.
Laissez-nous tranquilles. Non, non, ils acceptent. Et ça fait partie de cette culture du début de l'Église où on pouvait tout se dire. La seule chose, c'est qu'on n'avait pas le droit d'imposer par la violence, que l'Église fera plus tard, hélas. Bon. Imposer par la violence une règle de foi, etc. Et là, je trouve que l'Église primitive nous a montré un bel exemple d'ouverture, même pour des points de vue inconciliables.
Ouais.
Cela, c'est vraiment la question à tout faire péter, quoi. C'est pour ça que je suis très intéressé par ce qu'on découvrira par la suite, c'est comment le débat a mené à une sorte de solution qui soit durable et respectueuse, sans faire d'immenses vagues.
Moi, ce que je trouve aussi assez impressionnant, c'est que quelque part, on rebondit sur la notion de respect, mais Paul et Barnabas se sont respectés eux-mêmes aussi. Ils étaient suffisamment sûrs de ce qu'ils avaient fait sur leur mission pour se dire que, allez, on te mandate pour aller quelque part, qu'est-ce que tu fais? Tu traînes en chemin pour aller continuer à dire tout ce que Dieu fait avec toi. Si tu arrives sur place, tu viens pour parler du problème, tu ne parles pas du problème, tu dis bien et tu attestes de ce que tu as, de ce que tu as fait grâce à Dieu, et se dire, quelque part, en se montrant tel quel et en montrant justement toutes des preuves.
Ils ont en tout cas, c'est des preuves contextuelles.
Ils ont désamorcé à l'avance le problème.
Ils sont désamorcés,
mais en même temps, dans cette vérité de parole, ils disent à l'église de Jérusalem, que fait-on? On a autant de convertis, sous-entendu des milliers de conversions parmi les païens, qu'avez-vous l'intention de leur imposer ce que Dieu ne leur a pas imposé? En fait, c'est ça, tu vas au bout de la logique. Alors, êtes-vous plus fort que Dieu? Demanderez-vous plus que Dieu ne le demande? Moi, je pense que si on vit à cette époque-là, ces quelques jours ou semaines de débat, ça devait être quand même un terrible enjeu, quoi. Mais avoir une pression dingue. Mais dans le respect, comme tu dis, je pense que là, il n'y a pas de bagarre pour la bagarre, quoi. C'est pas qui va gagner, on veut gagner, c'est trouvons une solution. C'est plutôt ça qui est à l'œuvre dans ce texte, quoi. Et une solution qui permette à la voie messianique de durer, de continuer à être ce qu'elle est, c'est-à-dire attachée à Jésus et au Dieu d'Israël. Alors, pour rejoindre Marie-France, dans ton approche, on voit bien aujourd'hui qu'il a fallu, je pense aux missions par exemple, aux missions du 18e, 19e et 20e siècle, où très souvent... nos missions, qu'elles soient catholiques ou protestantes, ont été apportées quelque chose, alors la civilisation, la religion des Blancs, enfin tout ce que tu veux, et il a fallu quand même plus d'un siècle pour que les chrétiens locaux, indigènes, alors, c'est pas une question de rejet, mais disent c'est qui le Christ pour eux, dans leur culture. Il a fallu qu'il y ait des théologiens, catholiques et protestants, de ces peuples-là qui commencent à bosser sur qui est Jésus pour nous, dans la culture que nous avions, que nous avons encore, dans les contextes sociaux dans lesquels on vit. Je pense aux tribus, par exemple, c'est pas simple. La vie tribale en Afrique ou même dans certains pays d'Asie, ou les castes en Inde, qu'est-ce que tu fais avec ça? Au nom du Christ, tu fais quoi? Tu apprivoises le Christ comment? Donc on voit bien que tout n'est pas encore figé, tout n'est pas définitif non plus. Plein de peuples sont encore dans une approche, alors on parle de théologie sud-américaine, africaine, etc. À juste titre. Parce que la théologie que nous, nous défendons, c'est la nôtre, celle d'une culture gréco-romaine. Et rien d'autre. Après, on se rend bien compte que nous-mêmes, dans notre théologie gréco-romaine, on dit des conneries par moments. On doit encore transformer, on doit encore... Donc, à plus forte raison pour les nouveaux chrétiens, partout dans le monde.
Moi, ce qui me frappe aussi, c'est le verset 4. Hein, et il est mis au courant de tout ce que Dieu avait réalisé avec eux.
Donc, et ils insistent là-dessus.
C'est une humilité, quoi. Hein, et puis, ils laissent l'Esprit Saint travailler à travers eux. Quoi. Mm-hmm.
Ils font confiance, totalement. Et c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas de violence, tu vois, dans le discours. C'est pas « je t'insulte et si tu continues, je vais te taper dessus ». Non, non, il y a vraiment... Ils se sentent guidés et ils pensent que ben, Dieu va leur donner aussi une manière de gérer le problème. Car c'est une vraie question. Comme je disais tout à l'heure, totalement légitime. Plus il y aura de païens convertis, plus on doit se poser la question « on devient quoi ? On fait quoi ?» Est-ce qu'on campe sur des positions totalement juives et on dit ça, la voie messianique doit rester comme ça, ouais. Ou est-ce qu'on dit, ben voilà, qu'est-ce que Jésus ferait, comment Jésus veut-il que nous vivions?
Finalement, on s'était posé la question, pourquoi les apôtres restaient, pour les Barnabas restaient aussi longtemps Antioche. Finalement, on a la réponse.
On a déjà une réponse. Hein. Ah ouais. Heureusement qu'ils étaient là à ce moment-là.
Ouais. Finalement, Dieu est à l'œuvre. Et ils ont bien été utiles à ce moment-là, hein, pour aller rapporter à Jérusalem ce qui s'était passé.
Très bien. Je ne veux pas vous couper le sifflet, mais je pense qu'on est plus ou moins dans l'heure. Oui. Alors, prochaine fois, donc jeudi prochain,
théoriquement,
on est absent.